Vous écoutez
RMC. RMC, le vestiaire des GG.
Oui, Donald Trump va dire que c'est plutôt les 500 miles d'Indianapolis.
Pour les Américains, c'est les 500 miles. Ouais. Pour les fans de F1, c'est Monaco.
Oh, il y a le Grand Prix Monaco, oui, c'est ça, exactement. Alors, les GG, cette semaine, ce qui m'a intéressé, c'est le début de l'aventure des Bleus au Mondial, évidemment, pour le plus longtemps possible. On l'espère, évidemment, ça peut durer un mois s'ils vont au bout. Et on a entendu les mots de Kylian Mbappé à M6 cette semaine, d'expliquer que c'est pas toujours facile mentalement de vivre en groupe, en fait, en tout ça. Bah, en vrai, ça nous parle à tous, hein, c'est dans la vie de tous les jours. On partait en groupe avec 30 personnes. C'est pas besoin d'être un sportif de haut niveau pour savoir que c'est pas toujours facile. Il a dit ceci: dans les deux Coupes du Monde que j'ai eues, il y a eu des moments où socialement j'étais carrément incompatible parce que tu restes enfermé pendant 60 jours. Même si c'était facile, tout le monde jouerait une Coupe du Monde si c'était facile. Donc voilà, il parle aussi de ces moments d'intimité où c'est vrai qu'on en parle assez rarement et qui sont importants aussi dans la construction d'une victoire, par exemple. Et déjà, à travers vos expériences, je voudrais qu'on parle de ça. Comment on vit en groupe pendant un mois? Comment on vit avec Fred Weiss pendant un mois? Non mais
c'est pas moi qu'il faut demander.
Eh ben regarde, la compagne est au téléphone avec nous. 30 Moi, tu vas jamais un mois chez toi parce que tu travailles trop.
Voilà, c'est ça. Merci.
Fred, non mais en vrai, bah, toi par exemple, tu avais vécu les Jeux Olympiques à Sydney. Oui. On vit en vase clos. Vous étiez à l'hôtel.
Oui,
j'imagine.
Bien sûr. Oui.
Non mais ça fait partie de la performance aussi. Hein. Il faut que ça marche bien.
Oui, il faut que ça marche bien. Mais en plus, nous, je sais pas si c'est le cas dans tous les sports, mais nous on mange ensemble tout le temps. En plus, on a des horaires très précis, on arrive tous ensemble, on repart tous ensemble, on est habillés de la même façon. Donc j'avoue que parfois ça peut être pesant, mais réellement il y a très peu de moments où tu échanges avec les autres. Donc effectivement il y a les repas,
ah oui,
il y a les entraînements, mais le reste du temps il faut juste bien choisir ton partenaire de chambre. Quand t'as un partenaire de chambre, parce que parfois t'es tout seul, mais quand tu as un partenaire de chambre, faut juste bien choisir. Faut savoir que il se couche à la même heure que toi, il se lève à la même heure que toi, il a faim au petit déjeuner à la même heure que toi, et il aime les mêmes choses. C'est-à-dire les jeux vidéo. Moi, je suis plutôt fan de jeux vidéo, donc quand il aime les jeux vidéo, c'est encore mieux. mais malheureusement, tu peux pas choisir. Réellement, moi, vivre en groupe, c'est très ponctuel, c'est vraiment sur des épiphénomènes de la journée. Encore une fois, les repas principalement. Mais moi, il m'est arrivé de quasiment pas parler à certaines personnes pendant les Jeux Olympiques.
Ah ouais?
Bah, je leur parlais soit passe-moi le sel, soit passe-moi le ballon. J'alternais un petit peu entre les deux et c'était à peu près suffisant.
C'est son côté insociable.
Mais, ouais. Non, mais c'est vrai que je suis pas très sociable quand même.
Ça dépend.
Ouais. Ça dépend des moments. Mais réellement, t'as l'opportunité de pouvoir t'évader quand même. Une nouvelle fois, il faut que tu choisisses bien ton coéquipier. Parce que lui, tu vas être là avec lui tout le temps, tu vas dormir avec lui.
C'était
tu vas
qui t'engage sur
moi, c'était Cyril Julien. On était ensemble tout le temps. En plus, ce qui est paradoxal, c'est qu'on était plutôt concurrents sur le poste. Malgré tout, on s'entendait extrêmement bien. Et c'est vrai que on avait un mode de vie qui était très similaire. Et donc, c'est beaucoup plus simple. Je ne comprends pas ce que dit Kylian Mbappé, mis à part les contraintes de manger ensemble, et moi ça me dérange pas, je peux ne pas parler pendant un repas, donc ça me pose aucun souci.
T'asseoir à côté de celui avec qui
tu peux parler. Voilà, mais tu t'assois à côté de ton coéquipier de chambre, nouvelle fois, donc avec qui tu échanges tout le temps, ça se passe bien, il n'y a pas de problème. Tu as toujours des sas de décompression où tu peux aller manger à droite, à gauche avec tes coéquipiers, parce que c'est pas tous les jours.
Oui, mais pour certains, ça peut être oppressant la vie de groupe en permanence, effectivement.
Bah, non, parce qu'il y a ces sas où tu peux te permettre d'aller manger. Ouais. De temps en temps, les coachs et les managers sont pas fous. Ouais. Ils savent que c'est trop long. C'est une période où on n'a pas le droit du tout de sortir ou d'aller manger ou d'aller faire des choses.
C'est pour ça que
ils nous laissent ces périodes.
C'est pour ça que le camp de base là est important à choisir. On regarde aujourd'hui, l'équipe de France est logée à Boston en plein centre-ville. Je vois mal Kylian Mbappé faire une petite balade à pied dehors. Tu peux pas faire ça.
Tiens les gars, je voulais faire une petite course à l'épicerie là.
Tu peux pas.
Nous les chips.
Nous dans le tour, quand on était coureurs ou même nos athlètes, Marc en tant que manager, ils peuvent sortir le soir, faire une balade à pied autour de l'hôtel. On peut pas être embêtés, quoi. Ils sont anonymes.
Toi, tu faisais ça? C'est vrai que vous, l'équivalent, c'est Tour de France.
Moi, j'ai fais ça. Alors, nous, la différence, c'est que on est habitué dans notre métier à partir longtemps et vivre en groupe, puisque les stages, ça dure longtemps. Les courses à étapes, c'est toujours au moins une semaine. Donc, t'es déjà en groupe et un mois sur le tour. Tu peux t'autoriser à, moi, ça m'est arrivé de mettre un jean, une chemise et de dire en journée de repos, je vais faire un tour, je vais manger au resto plutôt
en
que de
civil,
manger avec
quoi. T'avais besoin d'être habillé en Jérôme Pinault, pas le coureur.
Sortir de la bulle du tour, les gars en jogos,
mais vraiment, c'est un camp de vacances quand on se déplace en équipe de France. C'est-à-dire qu'on est tous habillés pareil. Ça, par contre, c'est affreux.
Moi, c'est pas le mot. Non, je suis pas d'accord.
Non, c'est affreux.
Ça donne une unité.
Et évidemment, mais ce que je veux dire, c'est affreux dans le sens où le faire tous les jours pendant un mois,
ça non, c'est pas grave.
T'as envie de t'habiller un petit peu, t'as envie de faire comme Jérôme Pignon, mettre une veste, une chemise, etc. et aller draguer, aller sortir, etc.
Marc, t'acquiesces ce que disait Fred tout à l'heure sur il faut choisir son ami de chambre, on va dire, son coéquipier, son colocataire.
Son roommate.
Mais c'est déterminant.
Oui, mais ça se fait naturellement. En cyclisme, par exemple, les premiers stages qui précèdent la saison au mois de décembre et en janvier, on provoque le mélange des nouveaux et des anciens à travers le coéquipier de chambre. C'est-à-dire qu'on demande à tel ancien de se mettre avec tel jeune pour l'intégrer dans la vie de l'équipe et pour accélérer la connaissance des uns avec les autres. Après, progressivement, au fil de la saison, les affinités s'étant identifiées, les coureurs, notamment, se mettent par affinité. Et c'est tant mieux. Je trouve que c'est la meilleure formule parce que.
C'est toi comme manager, t'insistes pas pour dire allez mélangez-vous
temps. Premier rassemblement.
C'est l'utopie ça parfois de se dire le groupe vit bien et les mecs ils sont tout le temps ensemble. Il faut qu'ils soient ensemble tout le temps.
Premier c'est rassemblement, pas vrai, ça. Je pense que c'est la bonne option pour que tout le monde fasse l'effort d'échanger et de se connaître. Mais une fois que la saison est lancée, je trouve que pour la qualité du repos et pour la vie en communauté, vaut mieux être avec quelqu'un avec qui on a des affinités ou des habitudes de vie. Par exemple, de vie, c'est je suis couche tôt, t'es couche tard. Essayons de mettre deux gens qui se couchent tôt ensemble. Voilà, c'est plus sur ces affinités-là et elles se font, j'ai envie de dire, très naturellement et progressivement.
Toi, quand t'étais coureur, t'étais avec qui?
Moi, j'avais un frère qui faisait du vélo avec moi, donc naturellement et facilement, on faisait chambre ensemble. Il connaissait mes défauts, je connaissais les siens et on se complétait. Donc, on avait habitude de vie ensemble. Mais après, il y avait plein de petites anecdotes qui faisaient qu'il y avait des choix à effectuer parce que moi, j'ai connu l'époque où dans les hôtels, dans les chambres, il y avait un grand lit et un petit lit.
Ah mais ça oui, bien sûr.
Il y avait le petit lit.
Tu vois, c'est l'avantage d'un mec de mon gabarit. Moi, j'avais toujours le grand lit.
J'ai été éduqué avec Didier Rousse. Le grand lit, on le laisse au leader, au patron.
Voilà, c'est ça.
Donc moi, déjà tout mon début de carrière, Didier Rousse. Bon, allez, j'arrivais dans les hôtels. On en connaissait une chaîne d'hôtels où t'étais sûr d'avoir même le dépliant. Bah oui. Donc t'étais dans le dépliant. Tu cherchais
c'est
pas.
Plus, c'est plus le cas.
Et ensuite, en grandissant, j'étais avec Sylvain Chavanel, le leader aussi. Donc Sylvain, moi j'ai passé plus de temps avec Sylvain qu'avec ma femme et mon ex-femme à l'époque. Et Sylvain, il avait toujours le grand lit. Lui, moi, j'ai toujours dormi dans le petit lit. Mais par contre, on avait les mêmes habitudes. Il n'y avait qu'une chose, et moi je me souviens de pétage de plomb de Sylvain quand il était un peu fatigué et qu'il en avait ras-le-bol parce qu'on parle du Tour, mais il y a aussi les classiques. Quand on parle dans les classiques du Nord, on reste quasiment trois semaines dans le Nord. C'était le côté bordélique. Moi j'étais un vrai bordélique et Sylvain était au carré, et je me souviens des fois de péter les plombs pour dire mais c'est un bordel dans cette chambre, alors on mettait une demi-heure, on ne se parlait plus, chacun rangeait ses petites affaires pour repartir mieux le lendemain. Mais ça, c'est quasiment des études de vieux couple.
C'est des petites vides comme
Mais en fait, on part à 20, 25, mais en fait, on vit avec 3, 4 personnes.
Oui, c'est ça.
Vraiment.
Tu choisis qui tu veux côtoyer le plus.
Par exemple, sur le Tour de France, les coureurs mangent ensemble. L'encadrement est décalé par rapport aux coureurs, par rapport au travail à effectuer le soir après les étapes.
Avec les nouveaux services camion, resto et cuistot, ils mangent même pas tous ensemble.
Parfois, ils mangent même pas dans la même salle que
l'encadrement. Mais c'est pas grave, ça? Il faut pas que tout le monde mange ensemble.
C'est dommage. Chez nous, par exemple, on mange dans le même lieu, dans la même salle que les coureurs.
Pascal, tiens, comment vivre en groupe pendant un mois? T'as fait des stages de pré-saison, notamment. C'est les grands stages dans l'équipe de foot. Comment tu gérais ça, toi, l'entraîneur?
C'est comparable à ce que vous êtes en train de dire. Les premiers stages donc de pré-saison, vous avez de nouveaux joueurs, il faut les intégrer. Donc, au départ, vous faites en sorte que les anciens les prennent sous leur coupe. Et puis ensuite, les affinités vont faire qu'il y a des groupes qui se forment. Mais en tout cas, de ce que je connais, on est plus à se rassembler pendant ces périodes-là. Il y a vraiment le travail foncier qui est effectué. C'est souvent des doubles séances, voire triples dans la journée. Mais on s'attache, le staff, à préparer des activités de telle sorte que justement tout le monde puisse bien vivre ensemble.
Par exemple, des tournois
de poker. Les joueurs ils partagent ensemble. Ils restent pas tout seuls dans leur piole tout le temps.
Je vais loup-garou.
On faisait loup-garou nous.
par exemple, ben, je sais pas, quand tu vas en stage, souvent nous on allait en stage, je suis le Mont d'Arbois à Megève, bon, dans un pays magnifique, ben, on fait du VTT, du rafting, du bike and run. Moi j'ai organisé des compétitions de bike and run.
Est-ce que l'entraîneur se mêle aux activités de temps en temps, justement?
Ben, quand j'avais la pêche, je me mêlais, ensuite un peu plus vieux, moins. Bon, quelquefois, voilà, un coup j'avais fait un bike and run, c'était deux vélos de deux mecs à pied, et puis ils interchangeaient une course qui faisait une vingtaine de kilomètres. On est partis les premiers, c'était les temps scratch, on avait bien fait les choses, quoi. Ça, donc j'ai triché.
Ça, ça triche
en tant que coach. j'ai camouflé le marquage au sol, et ils sont tous partis tout droit, alors fallait aller à droite. Mais ils m'ont défoncé. Donc, quand on est arrivé à l'hôtel, quand ils ont su que c'était moi qui avais triché, ils m'ont défoncé. Ils avaient raison de me défoncer. C'était aussi pour leur montrer qu'on était avec eux. Voilà, il y a aussi des moments légers.
Ce sont des moments importants pour la performance.
Ce sont des périodes très importantes pour créer un groupe, pour la performance. Après, moi, quand j'étais manager de l'équipe, ce qui me rassurait le soir en sortant de table, c'est de voir mes coureurs discuter ou faire une activité ensemble dans le lobby de l'hôtel.
Oui, bien sûr.
Parce que
bien
tu peux faire tous les team building que tu veux, si quand tu rentres en compète et dans les moments difficiles, parce qu'il y a forcément des moments difficiles, trois minutes après
le
dîner, tout le monde est dans sa chambre, tu dis qu'il y a un problème. Ça, c'est vrai. C'est bah,
souvent,
ce sont des vrais repères.
Dans
notre équipe, nous avions des Tony Parker, des Boris Dio, qui nous faisaient jouer au loup-garou. Alors au début, je disais, j'ai une partie de jeu vidéo sur le feu, j'ai envie de vous gonfler, les gars. Sauf qu'à la fin, eh ben, tu prends au jeu, et c'est vrai que ça crée des liens, parce que en fait, tu te rends compte de chacun joue, justement, comment certains comme Pascal trichent pour gagner. Tu sais à qui tu peux faire confiance, c'est pas.
Et Pascal, maintenant, c'est. Moi, je me souviens
de toi, loup-garou.
Moi, je sais mentir de ouf.
Je me souviens de moments dans ma carrière où, à la fin de ma carrière, j'étais dans une équipe suisse, Yam Cycling, et on était en stage pour ce genre de team building. Donc on a fait des activités en commun, etc. Et le soir, il a fallu que le patron nous dise, on fait une réunion pour se parler. Et moi, j'ai pris la parole ce jour-là, parce que j'étais le capitaine de cette équipe, et j'ai dit, bah voilà, regarde, la problématique, c'est que tu peux faire toutes les activités ensemble que tu veux. Si toi, aujourd'hui, Michel, t'étais à l'époque qu'on salue, qui était le partenaire principal et le patron de l'équipe, nous dit pas, on reste là, on se parle. J'ai regardé tous mes coéquipiers, notamment certains, et je leur ai dit, mais si Michel dit pas, faut être là, vous êtes pas là.
Vous êtes pas là,
vous êtes sur votre ordi. Donc ça, en fait, ça va dépendre aussi de la personnalité. Mais tu sais, le mec qui part. Trois minutes après son dîner, avec qui tu as pu plaisanter pendant le dîner, et qu'une fois l'obligation dîner est finie et qu'il rentre dans sa chambre, lui, tu sais que le jour où t'es dans la merde, c'est pas lui qui va venir te chercher.
Il va pas t'aider, quoi.
Non, mais tu disais, il y a des leaders, hein, Marc. C'est quoi, oui, des gens qui vont prendre la parole quand il y a des moments un peu moins bons dans ces moments-là?
Il y a des leaders de vestiaire, il y a des leaders à table.
Ah oui?
Bah oui.
Il y a aussi des leaders pour faire des conneries. Hein.
Aussi.
C'est souvent les mêmes.
Moi, je faisais partie de ceux-là.
D'une équipe, ça fait partie de la vie d'une équipe.
Il y a des leaders pour faire les conneries, Marc, aussi.
Oui.
Il y a sur le Tour de France, il y a eu des histoires. T'es pas obligé de donner les noms.
Oui, bien sûr. Dans un temps qui s'éloigne, fort heureusement.
Une époque.
Je me suis quand même une fois retrouvé avec mon directeur sportif adjoint Martial Gaillan, être en voiture et à explorer un petit peu tous les rassemblements qu'il pouvait y avoir autour de la vie du Tour de France en soirée.
Un coureur était parti à un rassemblement festif.
On supposait qu'il était parti à un rassemblement festif, mais on avait une mauvaise pensée parce qu'en fait il n'était pas avec des gens dans un endroit fictif. Il était sur le bord. Du port dans une ville bretonne avec une partie des sponsors.
Mais bon, il faisait la fête, quoi.
Il avait pris la petite liberté de.
Mais bon, c'est grave.
Non, in fine, c'est pas grave. Après, faut pas que ça se répète trop.
Oui, c'est
souvent,
ça, en fait.
Il faut pas que ça devienne.
Par exemple,
Pascal.
Moi, je fonctionnais en tant que manager beaucoup sur la responsabilisation, donc sur la confiance. Et quand on partait en stage d'avant-saison, moi, il n'y a pas de couvre-feu. Ils ont quartier libre. Par contre, ils savent que le lendemain matin, à 6h45, faut qu'il soit au petit déjeuner.
T'as pas eu de mauvaise surprise?
Jamais eu un souci. Ouais. C'est-à-dire qu'il, de temps en temps, il partait par petits groupes, ils allaient manger une glace, boire un verre.
Tu l'as pas su, Pascal.
Mais même si je l'ai pas su, toujours est-il que je l'ai pas vu et je pense pas que ça ait fait du mal. Moi, la seule consigne que je leur donnais, je veux pas avoir de problème, je veux pas les flics nuit qui me réveillent parce qu'il y a un problème. Voilà. Il y a aussi une chose qu'il faut considérer, c'est quand vous partez longtemps comme ça en stage, on parle beaucoup des joueurs là, mais il faut aussi penser à tous les staffs qui bossent comme des fous, le staff technique, le staff médical. Bon, ça fait beaucoup de monde en fait, et ces gens-là, il faut qu'ils soient tous les jours frais, dispo, avec la banane. Donc c'est important de diversifier, on va dire, les activités, de pas qu'ils ressentent cette mise au vert prolongée comme une punition, quoi. Voilà, c'est...
Marco a envie d'ouvrir le tiroir aussi.
Il me
rappelle
ça vous faire marrer.
On est à l'antenne. Ne brise pas des familles et tout ça.
On était en stage en région parisienne et on était en plein hiver, au mois de décembre. Ouais. Et il y avait du givre. Donc les voitures étaient un peu couvertes de givre. Et puis la veille au soir, avec Martial, on pistait un de nos coureurs. On supposait qu'il allait s'échapper pendant la nuit. Et donc on le surveillait et il s'est pas échappé. Lui, il était dans son lit, il dormait. Et puis au petit matin, on s'est rendu, je sais pas, j'avais une intuition à 6 heures du matin. J'ai dit tiens, je vais aller faire un tour sur le parking. Et je vais sur le parking. Toutes les voitures étaient couvertes de givre, sauf une. Et on avait identifié trois coureurs qui n'étaient pas dans leur chambre sur le coup de 23 heures. Donc j'arrive au petit déjeuner, je prends mon petit déjeuner tranquillement, puis je regardais les coureurs défiler qui venaient s'installer pour prendre leur petit déjeuner. Et j'en vois deux, les trois lascars un peu chiffonnés, prennent leur petit déjeuner et dans la foulée, on devait partir à l'entraînement, faire... une sortie, et on arrive dans une grande grange où tous les vélos étaient exposés, donc les coureurs arrivent, mettent les chaussures, les couvre-chaussures, prennent leur vélo et se préparent à partir. J'ai dit là, stop! J'ai deux mots à vous dire. Alors donc j'avais, je sais plus, 25 coureurs autour de moi. J'ai dit voilà, j'ai deux mots à vous dire. Toi, vous rentrez dans vos chambres, vous faites votre valise, vous rentrez chez vous.
Ah ouais?
Ah ouais. Là, ils se sont décomposés. Et je leur dis, vous savez pourquoi? Alors, il y en a un qui veut s'excuser, l'autre qui est... Il y en a un autre qui veut dire « Mais qu'est-ce que je vais dire à ma femme ?» Et le gars, il est resté en stage assez frais dans un hôtel à côté.
Et moi, c'est là.
Et mais j'ai, vous savez quoi?
Plus
j'étais tranquille toute l'année.
Ah. Nous, dans le même ordre d'idée, j'ai vécu la période la plus belle en vie de groupe.
Toi, je te vois bien
2002,
sur le mur.
2002-2006. Et là, c'était fabuleux. Et 2002-2003-2004, avec l'équipe de Jean-René Bernodeau et de Philippe Rimbaud à l'époque, on fait un stage à Nantes. Erreur. À l'époque, l'équipe était composée de garçons qui, il fallait pas trop les chauffer. Rousse, Beneteau, Renier, Gélin, Pinault, évidemment. Et on arrive au premier stage à Nantes en novembre. Et à Nantes, chez moi. Donc on sort, évidemment. Tout le monde est un. Allez, bonne nuit, on y va. En Franck Renier, à l'époque, avait un grand véhicule, 9 places. Donc on est tous partis. On part, et évidemment, ça part fort. On rentre pas de bonheur. Stage d'entraînement, quand même. Et sur le parking, qu'est-ce qui nous prend? Parce que ça finit, on n'en a jamais assez. Beneteau met la musique à bloc.
Pas Benet, le tennisman.
Non, Walter, à qui on pense. Il est, et on est sur le parking, on met la musique à bloc, ça danse, ça chante. Et Philippe Rimbaud, par la fenêtre, ouvre le rideau, nous voit faire, ne dit rien. On va se coucher. Le lendemain, au petit-déj, Philippe était le manager de l'équipe. Il nous dit « Ça va ?»« Ouais, nickel. » Il dit « Bah aujourd'hui, il y a une séance d'entraînement de prévu. » Ouais. Donc, il y a 3 heures pour le groupe 1 et 2. Et puis, pour lui, lui et lui, donc la bande de la veille, ça va être 5. Et on avait tellement un groupe solidaire, un groupe soudé.
Tout le monde a fait 5 heures ?
Tout le monde a fait 5 heures.
Oh là là, mais c'est comme les soldats qui se préparent.
Bon, après, on s'est fait engueuler par les autres quand même. Parce qu'on n'avait pas prévenu qu'on était partis.
Comment on vit en communauté dans le sport de haut niveau pendant un mois, Fred, le mot
d'après ? Moi, juste pour terminer, j'ai une petite histoire aussi. Je suis en équipe de France junior.
Ah, vous me confiez petit à petit, là.
Je finis équipe de France junior et je rejoins les moins de 22. Donc, je suis surclassé, je les connais pas, etc. Préparation, enfin, qualification au championnat d'Europe de l'année suivante en moins de 22. Et donc, premier match, on gagne et les gars me disent, on sort. Donc, on sort. À un moment, je regarde ma montre Il est 5h du matin, je dis, les gars, il faudrait peut-être rentrer. Il dit, tranquille. Je dis, pourquoi tranquille? Ben, retourne-toi. Et en fait, derrière, c'était le coach qui était avec nous, en train de boire des coups. On est resté une semaine, on se couchait tous à 6h du matin. Et juste l'objectif, c'était de rentrer après le coach. Parce que le coach rentrait très tard déjà. Et justement, plus tard, on se donnait rendez-vous au petit-déj, tu vois.
Vous avez été performant?
On a été qualifié.
Ah, bah voilà. Donc, bah, oui. Incroyable. Bah, écoutez, on va voir. Non, mais c'est vrai, souvenez-vous, on a plein d'histoires comme ça. La Coupe du Monde 2018, quand la France gagne en Russie, il y a l'histoire de l'extincteur d'Adil Rami là dans l'hôtel, c'est un moment qui a formé un peu le groupe aussi, donc c'est des moments importants.
Mais pendant les compètes ça arrive, nous on a fait compète de karting la dernière étape du Tour de France en 2010.
Faut juste pas faire
le lendemain dans l'équipe, c'était marqué, l'équipe de Quick Step s'est détendue, a été faire un karting à Bordeaux. Bon, ça avait moins plu au patron à l'époque, Patrick Lefebvre, qui nous avait mis une petite cartouche. Ah non, il était
avec la photo de Jérôme.
Non, le lendemain dans le bus, c'était moins la fête. Mais on l'avait fait. On avait fêté notre tour.
Allez, on referme la porte du vestiaire. Comment vivre en groupe pendant un mois? Vous écoutez évidemment ça en podcast sur toutes les plateformes de téléchargement. Faites pas trop de bêtises, hein, les Bleus, hein, à Boston. Bon, de toute façon, c'est vrai qu'en centre-ville, franchement.
Ouais, c'est compliqué.
Ils vont faire quoi? Ils vont faire un cache-cache dans l'hôtel? Ils vont jouer au Uno? Super. Bon, ça va.
Au loup-garou.
Dans la vie, hein. Loup-garou.
Vous êtes mecs qui vont. Au loup-garou, les gars.